Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Avant d'accueillir l'invité de ce podcast, je vous présente comme sponsor de cet épisode les compléments alimentaires Eumine. Savez-vous quel complément alimentaire est utile pour vous? Pas forcément évident de répondre à la question. C'est pourquoi Eumine a réalisé un questionnaire très intéressant sur leur site eumine.fr grâce à une série de questions ciblées et leur expertise des plantes depuis 28 ans. Eumine sélectionnera pour vous des compléments alimentaires adaptés à vos besoins de santé ou bien-être. D'ailleurs, le petit plus que j'aime beaucoup chez eux, c'est que les compléments alimentaires Eumine sont fabriqués en France uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle. Je vous conseille vivement de réaliser ce petit questionnaire très utile pour une micronutrition ciblée. Il est en ligne sur le site www.eumine.fr, Eumine.fr. Bienvenue pour cette 3e série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-sellers sur ces sujets. Tout cela ne remplaçant nullement une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler des maux qui peuvent facilement se créer au niveau de la sphère crânienne. On parle des douleurs de la tête en général et on va parler en particulier des acouphènes, des migraines, céphalées et des rages de dents, des douleurs dentaires. Et pour ça, on se retrouve évidemment aujourd'hui avec le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour à tous. Alors, acouphènes, migraines, rages de dents, qu'est-ce qui relie déjà tous ces maux qui peuvent apparaître au niveau de la tête ?
Ben, c'est des maux qui font une vraie prise de tête hein, quand c'est présent. Ouais. On est sur des douleurs qui sont souvent très, très, très perturbantes. Alors l'acouphène, c'est pas des douleurs, mais c'est une gêne qu'on va avoir. Et on est souvent assez démunis en réactivité par rapport à ce genre de soucis.
Alors c'est vrai qu'on ne le sait pas souvent, hein, mais le rôle des dents est essentiel aussi dans le bien-être et le bon fonctionnement du reste de la tête, mais aussi du corps. En quoi les dents peuvent-elles provoquer des déséquilibres?
Les dents sont fondamentales. Et l'hygiène.
Alors je sais que vous n'êtes pas dentiste. Hein.
Non, je ne suis pas dentiste, mais dans notre équipe, on a un dentiste qui participe avec nous à toute la dynamique de réflexion qu'on a en endobiogénie. Les dents sont fondamentales parce que c'est l'endroit où on va préparer les éléments qui viennent du monde extérieur pour enrichir notre monde intérieur. Et ces dents ont une sensibilité extrême, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais on a dans nos dents autant de sensibilité que dans la pulpe de nos doigts. Si bien que lorsque... Parce que chacune de nos dents, vous avez cette image des dents avec ses racines qui sont plantées dans l'os, mais il y a à ce niveau-là un petit ligament qui, lui, est extrêmement riche au niveau sensoriel et la moindre tension, variation va créer une gêne et voire une douleur. C'est très informatif, c'est grâce à ça que vous mordez pas la langue en général, que vous arrivez à reconnaître bah, toute la bouche. Elle est, c'est un milieu de grande reconnaissance. Hein. Et on peut connaître la texture de ce qu'on mange. Il y a un grain de sable dans une feuille de salade, on arrive à l'extraire parce qu'on a ces sensibilités-là. Imaginez quand vous avez des fois un petit morceau de tendon quand vous mangez un saucisson, qui a un petit morceau de tendon là qui se coince entre deux dents. Déjà ça gêne parce que on est au courant qu'il y a quelque chose entre nos dents, parce que ça gêne, donc on essaye de l'enlever, on n'y arrive pas. on va pas y mettre les doigts parce qu'on est en société. Voilà, et dès qu'on peut, on va chercher un cure-dent ou maintenant des petites brossettes qu'on a qui sont très très bien pour nettoyer ces espaces interdentaires, et on enlève cet élément. Et on peut sentir une gêne qui va rester des fois pendant un jour, deux jours dans cette zone qui a été un peu traumatisée par cette simple petite mise en tension entre deux dents. Ça vous donne l'idée de la capacité de perception qu'a ces petits ligaments et l'impact neurologique qu'on a à ce niveau-là. Et donc, avoir de bonnes dents, c'est vraiment fondamental. Avoir une bonne hygiène dentaire, c'est fondamental. Et avoir un suivi en dentisterie avant d'avoir des dents malades, c'est fondamental. Et on sait très bien qu'on a des risques de pathologies cardiovasculaires beaucoup plus importantes chez des gens qui ont des dents mal soignées. On sait très bien qu'on a des risques de dénutrition protéique beaucoup plus importants chez les personnes âgées qui n'ont pas de dents et qui n'ont pas d'appareillage qui permettent une bonne mastication.
Oui.
Je vous ai déjà dit dans d'autres podcasts que si on veut avoir une bonne fonctionnalité physiologique de nos glandes, en particulier du pancréas, il faut d'abord prendre le temps de mastiquer, de saliver, parce que le travail de digestion il commence en bouche grâce à ces dents. Donc ça, c'est vraiment un outil fondamental qu'on a dans notre corps.
Et en posturologie aussi.
Et en posturologie aussi, bien sûr, parce qu'on fait toute la dynamique qui se passe au niveau de l'articulé dentaire. Vous savez, quand le dentiste vous met une couronne, parfois, il vous fait mâcher sur un papier qui en fait un carbone. Et il regarde simplement sur l'autre dent où sont les appuis. Et de temps en temps, il vient meuler un petit peu pour vraiment réguler cette couronne qu'il a mis en place. Parce qu'il suffit de rien du tout. Et vous avez une déstructuration qui se fait complètement dans cette articulée dentaire. Et ça, ça peut réveiller tout un tas de douleurs qui peuvent être même très loin de la bouche.
Oui,
donc
c'est ça.
Des maux de dos, par exemple, des lumbagos, parfois peuvent être liés à un problème d'articulée dentaire, liés parfois aussi à une usure, liés parfois à plein d'événements ou simplement une petite dent qu'on a brisée parce qu'on a mordu un peu trop fort sur un noyau de cerise.
Alors c'est vrai que si tous ces sujets sur les dents vous intéressent, je vous invite aussi à aller écouter le podcast que j'ai fait avec la dentiste Catherine Rossi, qui a écrit un livre très complet aussi sur le sujet et qui parle évidemment de ces liens corps-dents. Et puis on va voir comment soulager tout à l'heure une rage de dents quand on viendra aussi au remède. Alors ensuite, est-ce qu'on peut parler des acouphènes ?
Oui, alors les acouphènes, il y a deux grandes familles à mon avis d'acouphènes. Il y a la blessure purement neurologique qui est liée en fait sur... dans l'oreille interne, vous avez une sorte de harpe. Avec des fils qui sont tendus, comme les cordes d'une harpe. Alors simplement, ces fils-là, au lieu d'être tendus sur les deux extrémités, ils pendent seulement sur une extrémité et baignent dans un liquide. Et c'est l'ondulation de ce liquide à cause du son qui vient stimuler certaines fibres nerveuses et déclencher un message électrique que notre cerveau va interpréter comme un son. Il faut comprendre que si, pour une raison X ou Y, vous avez une corde qui se casse, c'est une blessure neurologique et c'est une excitabilité excessive de cette fibre nerveuse sans raison. Et ça, c'est tout le problème des névralgies, hein, quelles qu'elles soient. Et donc, dans l'oreille interne, on ne va pas avoir une douleur, mais on va avoir une... Parce que ce n'est pas des nerfs qui transmettent de la douleur, de l'information douleur, c'est des nerfs qui transmettent de l'information son. Et donc, on va avoir un son qui va être permanent... Enfin, qui va être considéré comme permanent dans notre cerveau parce que cette corde est cassée. Alors, qu'est-ce qui peut casser cette fibre-là ? Ça peut être un bruit aigu, un blast, hein, comme on dit, quand il y a une explosion, un coup de feu, des choses comme ça, une porte qui claque, mais aussi le fait d'être à côté d'une enceinte et que les sons comptent trop fort. Quand on allait beaucoup en boîte de nuit, quand on était jeune, c'était un peu ce qu'on nous disait
concerts,
de faire attention. Quand vous êtes mal placé dans une salle de concert et qu'effectivement, vous êtes un peu trop près d'une baffe, et bien effectivement, vous pouvez avoir des blessures. Puis il y a des bruits professionnels. Si vous êtes sur un tracteur ou sur un bateau qui a une fréquence de son en permanence, ben vous pouvez blesser ça sur le long cours. Vous pouvez travailler sur des machines-outils qui font des bruits très très stridents et qui peuvent à la longue fragiliser. Donc ça, on rentre dans les maladies professionnelles. Et le problème, c'est que ce son, une fois que vous le percevez en permanence, avec des fluctuations. Puisque votre cerveau, il a cette capacité à faire des anti-bruits. Donc, dès que vous êtes occupé, dès que vous avez fait autre chose, vous oubliez ce bruit-là. Mais dès que le soir, vous vous retrouvez tout seul, en relaxation, tout ça, ce bruit vient prendre toute sa place et vient même être insomniant. Alors ça, ce sont des acouphènes...
Mais c'est une question aussi d'attention et de focus.
Tout à fait, oui. Donc ça, c'est des acouphènes qui sont extrêmement difficiles à traiter parce que c'est une vraie blessure neurologique. Et les grands pontes du traitement des acouphènes prescrivent des fontaines à eau, tout simplement, à mettre sur la table de nuit, ce qui permet d'avoir un petit bruit d'eau qui fait justement cette déviance au niveau du cerveau et qui vient se focaliser sur le bruit de l'eau plutôt que sur le bruit de l'acouphène. Et puis, il y a l'autre variation des acouphènes qui, eux, sont tout à fait traitables et faciles à traiter, qui sont souvent liés à des problèmes ostéopathiques au niveau de l'articulation entre nos vertèbres cervicales et notre crâne. Et on peut avoir plusieurs raisons à ce niveau-là qui peuvent créer ces acouphènes. Soit vous entendez, vous percevez le battement du cœur avec un...
Un mouvement pulsatoire, voilà, quoi.
Qui peut être très prise de tête. Soit vous allez entendre également un son aigu ou plus ou moins sourd, ou un bruit de frigo, ou des choses comme ça, qui sont liés, eux, à un état congestif. Donc, soit quand vous entendez vraiment les bruits du cœur, c'est parce que les petites artères qui passent à côté vont impulser, et du fait de l'état congestif, vont faire passer l'information du message par voie hydrique au niveau du liquide de l'oreille interne. Mais si vous avez simplement de l'arthrose, si vous avez un faux mouvement, un coup du lapin, des choses comme ça, vous pouvez aussi congestionner cette zone-là. Et du fait de cette congestion, c'est comme quand vous montez en montagne en voiture. À un moment donné, on a les oreilles qui se bouchent et c'est très inconfortable. Mais c'est un peu le même mécanisme qui se passe et qui crée des bruits très particuliers. Alors ça, on peut les traiter facilement.
Mais ça passe de toute façon ou c'est un état congestif qui peut durer ?
Alors c'est un état congestif qui peut s'installer et s'auto-entretenir.
D'accord, donc, croit que c'est quelque chose qui peut être... On peut les confondre avec les autres acouphènes ?
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Et pour ça, il faut essentiellement... la première intention sur une acouphène récent et qui perdure, c'est... Pour moi, la première indication, c'est d'aller voir un ostéopathe qui doit faire des manipulations, qui doit vous aider à vous libérer ou pas de cet acouphène. Si ça ne marche pas, du moins si ça marche, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de mécanique.
Congestif, oui.
Si ça ne marche pas, c'est peut-être que c'est la blessure dont on a parlé ou c'est peut-être qu'on n'a pas résolu le problème congestif par la manipulation.
Voilà. Donc parfois, on peut ne pas être plus avancé.
Voilà. Donc après, on va utiliser plein de choses, on va aborder ça tout à l'heure.
Oui.
Mais... il faut bien comprendre que on a des artères qui viennent irriguer notre cerveau. Il y en a qui sont profondes, qui sont dans tout le système carotidien. Puis on a les vertèbres cervicales qui ont une particularité, c'est qu'elles sont chacune de nos vertèbres fait un petit anneau et l'artère va glisser dans ce petit anneau. Et donc on a une sorte de gouttière qui est fait de petits anneaux et l'artère sillonne entre ces petits anneaux. Et la dernière vertèbre cervicale qui est en lien avec le crâne, il y a une angulation particulière et c'est dans cet angle-là souvent qu'on a un pincement qui vient se faire dans cette petite artère et qui vient favoriser l'état congestif.
Mmh. Voilà. D'accord.
Et après, ce mécanisme-là peut déclencher ce qu'on va aborder tout à l'heure, qui sont certaines migraines.
Oui, alors ça nous entraînera vers la migraine. Alors simplement pour finir là sur les acouphènes, comment est-ce qu'on peut les diagnostiquer ? Est-ce que c'est plutôt l'ORL, le médecin généraliste, une fois qu'on a fait un peu ce check avec l'ostéopathe ?
Voilà, c'est peut-être bien de faire un examen auprès de l'ORL pour avoir vraiment une détermination de la zone blessée ou pas, et savoir stratégiquement comment orienter le traitement.
D'accord. Alors maintenant, venons-en évidemment à la migraine. Alors une personne sur cinq serait migraineuse. Quelles peuvent en être les causes ? Alors on parle de rhumatisme cervical, d'arthro-cervical, je crois que c'est la même chose, la congestion des sinus. Là, vous parliez aussi de congestion, est-ce que c'est la même chose ou pas ? Il peut y avoir, alors déjà, il y a plusieurs types de migraines et qui peuvent avoir différentes origines.
Alors déjà, on mélange beaucoup la migraine et la céphalée.
Oui.
Alors la migraine, par définition, n'est que hémicrânienne, donc elle ne touche qu'un côté, alors que la céphalée prend toute la tête. Il y a une multitude de causes de ces douleurs-là.
Oui, on dit migraine pour douleur de tête en général, ouais. Hein, je crois. Hein.
Donc il y a un petit abus de langage à ce niveau-là. Ouais. En sémantique médicale, c'est quand même des choses différentes. Il y a effectivement plusieurs causes. Qui peuvent être à la fois d'ordre mécanique, ça c'est l'arthrose cervicale avec la névralgie du nerf de Arnold, en fait qui est un nerf qui part de la base du crâne et qui vient en arc jusqu'au niveau frontal.
À gauche.
et à droite, des deux côtés, mais qui part de chaque côté comme ça, qui peut donner cette douleur en casque, où on a vraiment la tête lourde, et c'est pas forcément des douleurs insomniantes, mais c'est des douleurs, des inconforts, où on va être là, et là on est surtout sur un problème d'arthrose, et en fait, quand c'est très très axé sur un seul côté, c'est un peu comme une sciatique, mais dans la tête en fait, si vous voulez. Donc c'est vraiment un problème de déséquilibre à ce niveau-là. Ça c'est très arthrosique. Ça peut être la conséquence, plusieurs années après, d'un coup du lapin quand on a eu un accident de voiture, par exemple, ou une chute de cheval, ou des choses comme ça. Et c'est des années plus tard que ça se réveille. On a cette douleur-là qui prend vraiment en casque et qui peut être assez invalidante, pour laquelle il faut trouver des moyens pour relaxer la nuque, assouplir tout ça. Donc c'est de la kiné,
voire même débloquer.
Donc c'est tout un tas de choses. Et puis c'est tout ce qui va être chaud à ce niveau de la nuque. Donc un collier de mousse, ponctuellement, ça peut aider également à mettre au repos et à désinflammer. Les cures thermales peuvent être très très bienvenues là-dessus. Des cataplasmes d'argile peuvent être bienvenues également sur cette zone. Et l'usage d'huile essentielle à visée relaxante comme la lavande, et analgésiantes comme la Gaultérie, par exemple, associées, peuvent beaucoup nous aider. Si on est vraiment sur une composante très rhumatismale, on rajoutera un peu de genièvre, qui est intéressante, tout ça dans une huile de transport.
Et l'arthrose par la voie alimentaire aussi ?
Alors l'arthrose par la voie alimentaire, mais là c'est au sens général, c'est la mise en place d'un régime d'épargne pancréatique, c'est la suppression des produits laitiers, c'est la suppression des graisses cuites, ça va être une bonne mastication, une bonne insalivation de ce que l'on mange. Ça va être éviter l'alcool, éviter les graisses cuites, parce que tout ça, ça fatigue le pancréas. Du moins, ça sursollicite le travail du pancréas. Et donc, ça sursollicite des voies neurovégétatives qui vont entretenir l'état congestif et aggraver l'inflammation localement.
Pédale douce aussi sur le gluten ?
Évidemment. Alors, sur gluten, ou plus exactement sur les farines de blé modernes, parce qu'on a le gluten est souvent le bon coupable, mais c'est pas forcément lui. C'est plus la façon dont on fait la farine pour une grande partie des cas. Et avant de se priver totalement de blé, par exemple, essayez plutôt de venir sur des blés anciens dont la mouture est faite à la meule de pierre, avec des pains qui sont faits au levain de façon traditionnelle, et qu'on soit pas dans des pétrissages rapides, mais qu'on ait vraiment une levée du pain qui se fait sur un temps port.
Pas d'excès de façon sur les céréales en général.
Voilà, globalement. Ouais.
Alors, quel autre type de migraine ou de céphalée ?
Alors, on a parlé des sinus tout à l'heure.
Oui, les congestions, oui.
Voilà, ça c'est la congestion des sinus, qui peuvent être donc une sinusite, tout simplement, qui peuvent être liées à des polypes qu'on peut avoir au niveau des fosses nasales qui viennent boucher l'orifice des sinus. Le problème du sinus, c'est que c'est un espace qui peut se remplir de liquide, mais qui n'a pas de capacité d'expansion parce qu'il est dans l'os. Et puis le problème des sinus, c'est que quand on fait des radiographies du crâne, on peut voir que le sinus, là, cette poche, elle est plus d'un côté que de l'autre. Elle n'est pas du tout uniforme chez chacun d'entre nous. Quand on fait de la dissection anatomique et qu'on coupe avec une scie un crâne, on va voir qu'il y a cette poche n'est pas bien répartie. Donc, il y a des gens, ils sont toujours mal que d'un côté. Et donc, on peut penser que c'est une migraine, alors que c'est simplement une sinusite.
Oui.
Voilà, c'est les petites nuances qu'il faut savoir. La sinusite, c'est une physiologie qui est assez complexe.
Oui, alors qu'il n'y a pas forcément le ressenti du nez qui coule, etc. Ce qui ne fait pas penser à une sinusite.
Tout à fait. Alors là, on est sur les sinusites frontaux, parce que vous avez des sinus maxillaires qui sont au-dessus des dents, qui, elles, peuvent être inflammées par des dents ou par un granulome dentaire. C'est-à-dire, il y a eu une blessure à un moment donné, puis il y a un excès de cicatrisation, mais qui s'est fait dans le sinus. Et ça, c'est en train de la surproduction et ça peut inflammer un sinus à droite ou à gauche, juste au-dessus de nos dents, donc en dessous de nos yeux. C'est de la sinusite, ces douleurs-là. Il y a une sinusite sphénoïdale qui est très rare, mais qui est très profonde interne dans la tête et qui peut donner des douleurs terribles et qui peuvent être même des urgences chirurgicales parce que s'il y a une lésion osseuse à ce niveau-là, le cerveau est juste derrière, donc on peut avoir des gros soucis, mais heureusement, c'est extrêmement rare.
Suivez bien, vous êtes en cours année 3 de médecine, là. Je ne sais pas en quelle année on voit tout ça.
Et donc, ce qu'il faut comprendre dans ces sinus, c'est comme des vessies. C'est des réceptacles qui accumulent du liquide et qui vont l'évacuer par certains moments. Sauf que c'est des vessies qui ne peuvent pas s'expandre. Mais si je vous dis que c'est comme des vessies, c'est qu'au niveau neurovégétatif, elles fonctionnent avec le même rythme que votre propre vessie urinaire ou que votre vésicule biliaire. Tout ça, il y a des rythmes physiologiques de base qui vont donner des dynamiques de chasse. Et ce qui gère vraiment globalement le fond de la dynamique de chasse, c'est surtout la fonctionnalité de votre vésicule biliaire. Et beaucoup de poussées de sinusite sont très liées à des problèmes digestifs, en fait. Et c'est ce que certains vont appeler les migraines digestives aussi. Hein. Donc ça, ça peut être une poussée de sinusite, tout simplement parce que votre vésicule biliaire a des difficultés à se contracter. Donc on monte en niveau neurovégétatif pour permettre l'expulsion de la bile. Et ces changements de niveau neurovégétatif vont agir de la même façon sur nos sinus. Sauf que comme ces sinus sont dans de la boîte osseuse et qu'ils ne peuvent pas s'expandre, votre vésicule elle peut retarder l'expulsion parce qu'elle peut prendre du volume. Elle sera dans de l'expansion, elle est dans du mou. Votre sinus ne l'est pas. Donc dès qu'il est en expansion, le sinus, eh bien, il s'inflamme tout de suite. Mmh. Et quand il s'inflamme, il se désynchronise du restant du corps et il s'autonomise dans sa dysfonctionnalité.
Oui.
Et donc, Alors, là, on rentre sur ces douleurs qui peuvent être très violentes et dont on n'arrive pas à se débarrasser.
Est-ce que quand on effectivement fait des repas en excès ou quand on mange un certain aliment, par exemple des produits laitiers, ça ne nous correspond pas vraiment, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir les sinus hyper chargés. C'est ce même mécanisme.
Tout à fait.
Oui.
Et quand on prend de l'âge, on aura même la goutte au nez.
Oui.
Il y a des personnes âgées qui ont la goutte au nez simplement du fait d'avoir faim. Et ils se mettent à table avec la goutte au nez. Ça, c'est ce qui va nous arriver quand on prendra un grand âge. C'est purement physiologique et c'est lié à ces sécrétions. Donc, tant que ça circule, il n'y a pas de sinusite et donc il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un obstacle pour une raison X ou Y, ça remplit le sinus, ça le congestionne et ça l'autonomise dans sa dysfonctionnalité.
Autre type de migraine ou de céphalée dont on peut parler ?
Alors, on a la céphalée qui est purement vasculaire, qui est la mise en tension des vaisseaux temporaux essentiellement. Donc, il faut éliminer parfois une maladie qui est assez problématique. Donc, parfois, sur ce type de migraine, on va faire une petite biopsie de l'artère temporale. Bon, c'est des cas extrêmes, mais en général, on arrive vraiment en bout de course au diagnostic et c'est à l'hôpital qu'on fait ça. Mais globalement, on peut avoir effectivement des mises en tension vasculaires qui peuvent donner ces douleurs un peu pulsatiles qui sont derrière l'œil et qui font qu'on a parfois aussi une photophobie associée. Après, on a des signes accompagnateurs des migraines qui ne sont pas de la migraine. C'est ce qu'on appelle certaines migraines ophtalmiques.
Oui.
Où on va avoir des éclairs dans le regard, on va avoir du mal à pouvoir fixer un texte et pouvoir lire ce texte. Il y a ce flou qui s'installe et qui prend beaucoup de plus en plus de place et qui va s'effacer comme il est venu. Et puis qui va se suivre ou non d'une douleur de type migraineuse. Mmh. Hein? Donc c'est ce qu'on appelle les auras migraineuses, qui n'a rien à voir avec les autres auras. Hein, mais c'est...
ouais, on n'est pas dans le spirituel. Voilà.
On n'est pas dans le spirituel, mais c'est... Voilà, donc il y a des personnes qui vont avoir... des fois, juste un événement d'éblouissement peut déclencher ce mécanisme-là. Et en fait, ce qui se passe, et tous ces scintillements qu'on a dans l'œil, ça ne se passe pas dans l'œil, on le voit dans l'œil, mais en fait, c'est dans notre cerveau. C'est une petite zone qui est en hyperexcitation électrique et qui se décharge en donnant ces signes-là. Ça s'apparente un petit peu, vous m'excuserez du raccourci, mais un peu à une crise d'épilepsie. Ça n'a rien à voir avec, mais c'est un peu le même principe. C'est de l'énergie électrique qui s'est accumulée dans des neurones et qui, à un moment donné, se décharge de façon complètement anachronique. Bien, cette migraine ophtalmique, c'est un peu ce qui se passe et qui fait que vous voyez ces éclairs et qui vous pose problème pour faire la lecture, pour saisir sur écran. Et donc, très souvent, on aime bien fermer les yeux, se mettre dans le noir. On peut avoir de la douleur qui est aggravée par la lumière. Donc, c'est toute cette photophobie qui vient aggraver ça. Il y a des parts neurovégétatives importantes dans ce type de migraine parce qu'il y a souvent le fait d'être fatigué.
Oui, ça vient avec la fatigue. Oui.
D'accumuler de la fatigue, de retarder le moment du repas.
Le stress peut-être.
Les deux associés, le stress qui vient dessus. Et tout ça, on fait des changements de niveau neurovégétatif qui sont subtils, mais qui, au bout d'un moment, s'emballent et enflamment en fait, toute cette problématique qui donne cette douleur insupportable.
Après, il peut y avoir des migraines qui sont accompagnées, par exemple, au moment du cycle pour les femmes.
Alors, ça vient du fait que les hormones progestérone augmentent le niveau congestif de l'organisme. Et donc, tous les terrains précaires au niveau de la congestion, eh bien, ils peuvent décompenser au niveau congestif à ce niveau-là. Et donc, faire réveiller ces migraines-là, qu'on appelle des migraines cataméniales, hein, qui disparaissent avec l'arrivée des règles. Mmh. Mais qui peuvent être là aussi avec l'arrivée de la ponte ovulaire, qui peut aussi déclencher ces migraines. Et ça, c'est le choc hormonal de pic de FSH qu'on a, qui est aussi une hormone qui favorise les états congestifs, qui va violemment impacter le niveau congestif et déclencher ces migraines très très ponctuelles qui peuvent être très douloureuses. Les douleurs de migraines sont considérées comme les douleurs les pires qui soient, et certains spécialistes de la douleur nous disent que la douleur de migraine est bien supérieure qu'à la douleur cancéreuse.
Et on parle aussi des douleurs dentaires quand même.
Alors les douleurs dentaires,
dans le pire des douleurs,
qui sont terribles. Hein, alors ça, c'est surtout les douleurs, c'est la douleur névralgique du trijumeau, donc qui est un nerf qui, comme son nom le dit, a trois branches, et donc deux branches qui partent sur chacune sur la mandibule inférieure, sur la mâchoire, et puis une autre qui vient énerver le haut du visage. Et alors ça, c'est blessures nerveuses qu'on peut avoir souvent suite à un accident de dentisterie, peuvent donner des névralgies qui sont effectivement extrêmement violentes et très difficiles à traiter.
Simplement pour finir sur cette histoire de migraine, et puis on va revenir évidemment sur les remèdes, il y a des gens, on entend dire, elle est migraineuse, et on a l'impression que ces gens-là vivent avec des migraines toute leur vie sans trop savoir d'où ça vient, et puis voilà. Est-ce qu'on devrait toujours connaître l'origine d'une migraine ?
Oui, bien sûr, comme tout signe qu'on peut avoir, il faut toujours aller chercher et rechercher et pousser plus au fond pour savoir quel est le mécanisme qui crée cette douleur. Parce que comment peut-on résoudre cette douleur si on ne connaît pas le mécanisme ? Ce n'est pas en agissant en bout de ligne qu'on aura... Alors effectivement, on va avoir des médicaments extrêmement puissants comme les triptans qui vont arrêter les migraines. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces médicaments-là, quand on commence à les utiliser de façon plus ou moins régulière, on voit que les crises de migraines sont de plus en plus rapprochées et qu'elles sont de plus en plus intenses. Donc, symptomatiquement, sur le moment, ça soulage la migraine, mais en fait, ça entretient le fond migraineux. Il y a d'autres mécanismes qui donnent ça, le café, par exemple. Le café, chez quelqu'un qui ne boit jamais de café et qui a une migraine, vous lui faites un café serré, et ça peut être suffisant pour soigner la migraine. Par contre, si vous êtes un consommateur de café, la consommation chronique de café peut entretenir le fond migraineux. Donc c'est
et puis quand il l'arrête...
Quand on l'arrête, on peut avoir une crise d'état de manque qui peut se déclencher une migraine aussi.
ça tourne en rond.
C'est des trucs qui paraissent très ambigus, mais qui s'expliquent très très bien au niveau physiologique.
On peut expliquer toute migraine aujourd'hui, en cherchant bien les causes.
Je ne sais pas si on peut expliquer toute migraine, mais il faut au moins chercher à comprendre les mécanismes d'apparition. Il y a toujours des cas extrêmement complexes qui nous obligent, nous médecins, à réfléchir et à pousser plus loin les investigations.
À se creuser la tête, justement.
À se creuser la tête. à nous donner des migraines, parfois.
C'est ça, se prendre la tête.
Mais non, globalement, il faut essayer de comprendre le mécanisme. Si on a des migraines à cause d'une arthrose cervicale, on ne va pas mettre le même traitement que si on a une migraine à cause d'un problème de sinusite. Et on n'aura pas du tout la même stratégie que si c'est à cause d'un état de congestion vasculaire.
Alors justement, passons aux remèdes. On viendra sur celui des acouphènes et puis des rages de dents ensuite. Puisqu'on est sur les migraines, alors vous avez déjà donné des remèdes pour l'arthrose. Est-ce que pour la congestion au niveau des sinus, vous pouvez nous donner quelques pistes ?
En fait, la plante majeure pour les migraines, c'est la grande camomille, qu'on a du mal à trouver, qui est dans très peu de spécialités. Mais en cherchant bien, votre pharmacien vous trouvera de la grande camomille, qui est une plante qui va pas être forcément très efficace en phase aiguë, mais qui va être intéressante sur le fond migraineux. Donc c'est des traitements au long cours qu'on va faire avec la grande camomille de façon régulière. Je ne vous donnerai pas de posologie parce que c'est une plante un peu difficile à trouver. Et donc vous respecterez les posologies qui seront données par ce que le pharmacien vous aura trouvé.
D'accord, mais c'est quoi ? C'est quelle partie ? C'est sous forme de tisane ou
Non, on peut l'avoir sous forme liquide, on peut l'avoir sous forme de poudre, on peut l'avoir sous forme de gélule, on peut la trouver associée à d'autres plantes.
Donc là, on voit avec son médecin et son pharmacien.
Le mieux, c'est de faire ça. Mais c'est une plante majeure à introduire dans votre pharmacopée de fond migraineux pour sortir de ce fond. Et qu'est-ce que vous allez apercevoir ? C'est que l'intensité des crises sera de moins en moins forte et le rythme des crises sera de plus en plus étendu. Donc de moins en moins de migraines et des migraines de moins en moins fortes. Et c'est important de commencer à faire ça. Et en parallèle, ce qui est important, c'est de supprimer le café si vous êtes consommateur de café.
Ça, c'est rappelez-nous pour quel type de migraine c'est ?
Ça, c'est pour toutes les migraines de congestion vasculaire.
D'accord, c'est ça. Hein.
Et un petit peu sinusienne aussi. Mais surtout pour toutes ces migraines pulsatiles derrière l'œil, avec éventuellement des auras et tout ça. Là, ce qui est la vraie migraine, en fait. Hein. les autres, c'est des maux de tête.
D'accord. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais comme, en fait, au niveau de la sémantique, on n'a pas votre détail, c'est pour ça qu'on précise.
Donc, le café, il faut, si vous êtes un consommateur de café, il faudra l'arrêter, mais pas du jour au lendemain. Il va falloir diminuer progressivement. Il faut vous désintoxiquer du café. Si vous arrêtez du jour au lendemain, vous allez avoir des douleurs migraineuses très fortes. Vous pouvez avoir d'autres maux qui sont des maux de l'état de manque, hein, qu'on peut avoir avec n'importe quelle drogue.
On se sèvre progressivement. Hein.
Donc, il faut faire un sevrage progressif. Mais si vous êtes migraineux et que vous continuez à boire du café de façon régulière, c'est pas la peine de vous jeter sur plein de médicaments. Tant que vous n'aurez pas résolu ce problème, vous serez tout le temps dans le fond migraineux. Et le jour où vous aurez totalement arrêté le café, là, vous pourrez prendre le jour où une migraine, où les prémices d'une migraine se viennent, parce que les migraineux savent qu'elle va venir. Très souvent, il y a des petits signes qu'on néglige parfois parce qu'on est pris par la vie, mais on sait très bien. On se dit, mince, pourquoi j'ai pas réagi un peu plus tôt? J'aurais pu enrayer cet emballement qui vient allumer la douleur. Donc, si vous êtes consommateur de café et que vous êtes migraineux, il va falloir aller vers l'arrêt du café progressif. Consommer de la grande camomille au quotidien, c'est déjà la première chose à faire. Première chose à faire. Après, en phase aiguë, si on reste avec les plantes, on va être beaucoup moins performant, on va dire, qu'avec les médicaments chimiques qu'on a fait. Mmh. Ça, c'est sûr. Mais on peut régler déjà plein de démarrages de migraines si on agit très rapidement. Déjà, on va utiliser des plantes anti-inflammatoires. La reine des prés, par exemple, est très bienvenue. Elle va avoir un effet de fluidifiant sanguin et elle va avoir une activité anti-inflammatoire. C'est un effet qui va s'apparenter un peu à celui de l'aspirine, mais en mieux. Mais l'aspirine peut suffire à régler une migraine aussi, si on prend assez tôt. Mais avec la reine des prés, on n'est pas sur une seule molécule, on est sur une multitude de molécules en synergie, dont une molécule qui était un précurseur de l'aspirine.
On l'a dit dans un autre podcast.
Et ça, c'est intéressant pour plein de raisons. On va utiliser la lavande qui peut être très bien également pour éviter la dynamique spasmodique. On peut utiliser la mélisse dans ce cadre-là.
Alors quand vous dites on utilise tout ça, c'est sous quelle forme par exemple? Alors la lavande, c'est en huile essentielle?
En huile essentielle, en tisane, en teinture mère. On a toutes ces plantes-là sous ces trois formes-là.
D'accord.
On peut aller utiliser, moi j'aime bien utiliser la pivoine. Et très peu, vous ne verrez pas dans beaucoup de livres quand on vous apporte la pivoine pour les migraines, mais la pivoine est une plante qui va réguler les à-coups du système alpha-sympathique, celui qui va déclencher toute la dynamique spasmodique, en fait. Donc la pivoine peut être très très bien en synergie avec la lavande, la mélisse, pour calmer tout ce qui va allumer, en fait, cette crise, et associé avec une plante de type anti-inflammatoire, comme la reine des prés, on a dit.
D'accord, très bien. Donc on a vu déjà pour l'arthrose, est-ce qu'on a fini sur les migraines? Est-ce qu'on peut passer aux acouphènes?
Alors on peut utiliser des produits en local,
oui.
Et les huiles
essentielles. Je me souviens du baume du tigre par exemple à une époque.
Voilà, vous avez des rollers maintenant qui sont spéciales migraines et qui permettent d'aller masser toute cette zone temporale et qui va apaiser les choses. Oui. Ça peut être bien d'utiliser... de la lavande avec lequel on peut venir masser l'articulé dentaire au niveau de la mandibule et de la jonction entre la mandibule et la mâchoire pour détendre ces tensions musculaires qu'on a à ce niveau-là. La lavande marche très très bien là-dessus et ça peut réveiller toute une partie de maux de tête également.
Mmh, attention de ne pas en mettre dans les yeux évidemment.
Non, jamais.
Les huiles essentielles, c'est vrai que sur le visage. Alors passons effectivement aux acouphènes. Alors si, oui, vous parliez aussi de gingembre, hein, vous en avez parlé?
Là, on n'en a pas parlé, mais c'est pour toute la part digestive que le gingembre peut être intéressant. Dans toute la dynamique de régulation, c'est une plante un peu magique, hein, le gingembre, qui régule beaucoup de choses au niveau neurovégétatif et qui va réguler beaucoup de choses au niveau digestif. Et donc ça peut avoir un impact sur les migraines, surtout avec la fatigue, avec les voyages. C'est une plante intéressante, effectivement, dans l'adaptation.
Mmh. C'est vrai que bah là, on peut, par exemple, décharger la vésicule biliaire avec du radis noir. Mais attention, là, vous dites si on a des calculs. Hein.
Oui, alors c'est vrai que si on revient là, si on est sur les migraines de type digestif ou les migraines sinusiennes, le premier traitement à faire, c'est de drainer le foie. Et on peut le faire de façon assez forte avec des ampoules de radis noir. Et on peut, moi je peux aller sur, il y a une marque qui s'appelle Raphanus Potier, qui est une vieille marque qui fait du jus de radis noir en solution aqueuse. Et on peut aller jusqu'à 6 ampoules par jour. Alors bon courage, hein, parce que c'est très soufré, c'est pas bon. Autour de vous, on n'est pas très content quand vous ouvrez une ampoule, hein, parce que ça sent. Mais n'empêche que ça peut régler ce type de migraine qui est très très lié à l'inflammation des sinus, en lien avec le fonctionnement digestif.
Comment on peut le savoir d'ailleurs que c'est en lien ?
Eh bien, on le sait parce que c'est la physiologie. Mm. Hein, vous le saurez parce que vous allez vraiment faire le lien, vous, entre le fait d'avoir mangé certains aliments gras et d'avoir cette migraine qui monte. Voilà, c'est toute cette difficulté
digestive.
D'accord,
donc en général, les gens qui ont ce problème l'ont repéré.
Alors, ils ne l'ont pas forcément repéré eux-mêmes, mais le médecin qui les aura éduqués leur a appris à comprendre et à repérer cette dynamique.
On l'espère fortement.
Et donc, maintenant que vous avez écouté ce podcast, vous allez être attentif à ça et vous allez bien voir qu'on peut régler ça.
Et un médecin formé à l'endobiogénie, forcément, saura ça.
Tout à fait.
Oui. Bon, ben ça, c'est très bien, en tout cas, comme remède. Pour les acouphènes, que peut-on faire ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses à faire, à part la fontaine à eau, le dérivatif en fait, du bruit, et puis le bon diagnostic, l'ostéopathe, est-ce qu'il y avait autre chose ?
Alors, on peut, sur tout ce qui va être arthrose cervicale, on peut utiliser à nouveau des huiles essentielles qu'on mettra en massage sur place, qu'on va mettre dans une huile de massage. Mm-hmm. Là, on est encore sur du terrain d'arthrose, donc l'huile d'arnica, c'est ce qui est le plus facile à trouver et qui a un bon rapport qualité-prix. Et dedans, vous pouvez mettre de la genièvre, c'est vraiment important pour ces problèmes d'arthrose cervicale, de la camomille, ce qui est important pour la décongestion des tissus et l'assouplissement, la reconstruction tissulaire, musculaire, périarticulaire. Et puis, une plante analgésiante comme la gaultérie, que j'aime bien, effectivement, qui vient anesthésier cette zone et mettre un peu de confort. Mmh. Du chaud, beaucoup de chaud. Donc, vous pouvez aussi utiliser des baumes qui sont... on a évoqué le baume du tigre. Il y a d'autres baumes qui chauffent beaucoup, à base de piment, par exemple. Ça, il faut pas hésiter. Vous pouvez aussi vous mettre sous la douche et vous faire... bloquer la douche sur la nuque avec de l'eau de plus en plus chaude tout en restant dans le supportable. Ça peut nous aider à passer les choses et à lever cette problématique de tension et d'enraidissement musculaire. C'est pour ça qu'on prendra du chaud et pas du froid. Mmh. Le froid calmera la douleur, mais ne va pas calmer l'enraidissement.
Ouais, ça, c'est pour les acouphènes congestifs.
Hein. Voilà, congestifs et il y a une tension qu'on vient mettre sur la base... crâne avec des muscles qui sont en quasi-tétanie. Ouais.
Je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que les acouphènes peuvent être liés à un virus ?
Alors, oui, il y a des virus à activité neurotrope. Et on peut avoir des vertiges ou des acouphènes qui sont liés à une attaque d'un virus qui passe dans l'oreille interne et c'est le même type de virus que le virus de l'herpès, par exemple, ou du zona, qui sont des virus qui circulent dans la gaine de myéline et qui viennent éplucher cette gaine de myéline, qui est cette gaine de gras qui est autour de la fibre nerveuse, comme le caoutchouc qu'on a autour d'un fil électrique. Mm-hmm. Et en fait, ces virus diffusent là-dedans et viennent inflammer, on va dire, tout le nerf. Et donc, le nerf est en extrême souffrance. Il y a des courgeux, on va dire, qui se font au niveau électrique. Et ça, c'est effectivement des cas très particuliers. Souvent, ces attaques-là sont assez violentes. Souvent, on termine à l'hôpital pour avoir un bilan. Et souvent, il n'y a pas de traitement parce que le temps qu'on fasse le bilan, tout ça, l'organisme a pris en charge le virus et l'aura détruit par lui-même. Et l'affaire va être résolue.
D'accord. C'est ce qu'on peut trouver aussi dans des cas de déséquilibre quand on a des problèmes d'oreille interne.
Tout à fait. Ça va avec les problèmes de vertige qu'on peut avoir. Mmh.
Ok, très bien. Alors, finissons par effectivement les rages de dents, où là, évidemment, on va retrouver le bon vieux clou de girofle.
Oui, bravo, Anne.
Qui est connu quand même dans la pharmacopée.
Bah, qui est l'odeur du dentiste quand on était enfant. Hein. Maintenant, on utilise beaucoup moins le génol, où on l'utilise de façon synthétique. Mais le génol, c'est le clou de girofle, c'est Eugenia. Hein. Donc, le génol, c'est une molécule issue de... du clou de girofle qui est extrêmement antiseptique et extrêmement antalgique et anesthésique. Donc c'est vraiment la plante du dentiste par excellence parce que c'est très difficile de diffuser localement des produits qui calment la douleur et le génol est un des plus performants en ce sens. Donc c'est pour ça que ça a longtemps été un produit très très utilisé par les dentistes, qui est toujours utilisé dans des pansements qu'ils utilisent ou des choses comme ça. Alors après, que cet eugénol soit d'extraction naturelle ou qu'il soit de synthèse, c'est une autre histoire. On stérilisait même autrefois les outils de dentisterie dans du liquide d'eugénol. Maintenant, on stérilise avec d'autres méthodes, mais longtemps, c'était le process. C'est pour ça que ça sentait toujours très fort, l'odeur du dentiste, c'est très particulier. Le clou de girofle a l'avantage qu'on en a quasiment tous dans nos maisons, si on cuisine un petit peu. Le gros avantage, c'est qu'on a souvent une rage de dents en plein week-end, quand il est impossible d'avoir un dentiste à proximité, ou la nuit. Donc le clou de girofle, on peut l'utiliser déjà en le mettant simplement en bouche et en le mâchouillant au plus près.
On l'infuse pas.
Il est un peu dur. On peut l'infuser, mais on l'utilisera alors en bain de bouche. Et donc on fera une infusion très concentrée, très longue. Donc on laissera infuser facilement 20-30 minutes votre clou de girofle dans de l'eau chaude. Et ça, on l'utilisera en bain de bouche. On pourra l'utiliser en teinture. Donc on peut l'avoir en teinture mère, en extrait fluide. Et là, on peut l'utiliser à l'aide d'un coton-tige qu'on va imprégner et on va venir appliquer directement sur la gencive là où on a mal. Ça, on va avoir le côté analgésiant. C'est un effet, j'ai pas dit, c'est quand même un effet antiseptique majeur. Le clou de girofle, c'est une des plantes, l'huile essentielle de clou de girofle est une des huiles essentielles les plus puissantes au niveau antibactérien.
Plus que le tea tree, par exemple.
Oui. Et on va avoir une action, parce que la plupart des rages de dents, ça peut être un abcès dentaire qu'on a. Donc on va avoir une action également à la fois antalgique, mais aussi
antiseptique,
de traitement. On peut, dans ce cadre-là, utiliser l'argile en association. Donc vous pouvez, une petite noisette d'argile, mettre une goutte d'huile essentielle de clou de girofle dedans, bien masser ça pour que ce soit bien homogène, et puis venir l'appliquer dans la gencive, en contact direct, sur la zone qui fait mal. Tout ça en attendant le dentiste. Très souvent, il faut un geste dentiste pour évacuer l'abcès. Donc il est obligé d'inciser pour évacuer l'abcès. Tout de suite, la douleur est soulagée. Ça, c'est à cause des petits ligaments dont on parlait tout à l'heure.
Qu'on parlait au début du podcast.
Qui vont être tout à fait mis en tension par un abcès. C'est pour ça que c'est des douleurs insupportables qu'on ressent. Voilà.
Très bien. Écoutez, c'est parfait. Évidemment, tout ça en consultation, soit avec votre pharmacien, on l'a dit, soit avec votre médecin, si vous avez un doute, si vous avez un doute sur des effets secondaires, si vous ne savez pas, vous connaissez pas les posologies, évidemment, allez vers votre praticien. Vous pourrez retrouver, on l'a dit, sur le site aussi de l'IEMPI, et je le dis également en conclusion, des médecins qui pratiquent aussi cette médecine et qui connaissent bien tout ça. Merci infiniment, docteur Charrier.
Merci, Anne.
Et puis évidemment, on a parlé des douleurs de la tête, des acouphènes, des migraines, des céphalées, des rages de dents. Tout ce qui est sphère ORL, plus particulièrement, on l'a déjà traité avec le docteur Charrier dans la première série Ma santé au naturel. Donc je ne peux que vous recommander d'écouter ce podcast si vous ne l'avez pas déjà écouté. Merci. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr, ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir aussi vos livres « Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante » ou « Soigner au naturel les maux de l'automne » et « Se soigner au naturel toute l'année » disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les deux premières séries « Ma santé au naturel » en 6 épisodes avec le docteur Charrier et ses excellents conseils. Tout ceci, je le redis, ne remplaçant pas évidemment votre consultation personnalisée chez le médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose Éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Idoya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.